les voies de l'égalité.
La santé mentale et le soutien psychologique occupent aujourd'hui une place de plus en plus importante dans notre société. À Chambly, Stéphanie Prandy a créé l'association J'écoute pour accompagner les personnes qui ressentent le besoin d'être écoutées et soutenues à travers différentes approches thérapeutiques, psychothérapie, art-thérapie, hypnose ou encore accompagnement des psychotraumatismes. L'association propose un espace d'écoute et de reconstruction pour adultes, enfants, adolescents et couples. Nous rencontrons aujourd'hui sa fondatrice pour comprendre la démarche de cette initiative locale et les besoins auxquels elle répond. Madame Prandy, bonjour.
Bonjour Marie-Gabrielle, merci de m'inviter sur Alternative aujourd'hui.
Pour commencer, pouvez-vous nous présenter l'association J'écoute et ce qui vous a poussé à la créer ?
Eh bien, écoutez, effectivement, je suis psychologue clinicienne déjà depuis de nombreuses années. J'ai exercé en psychiatrie adulte depuis un certain nombre d'années aussi. Et donc, c'est mon expérience auprès des patients hospitalisés, notamment autour des ateliers de danse-thérapie que j'ai utilisés dans le service de psychiatrie adulte, qui m'a vraiment motivée en voyant les effets thérapeutiques sur ces patients avec des pathologies différents, de pouvoir rentrer en relation les uns avec les autres par le biais de ces ateliers, qui m'a poussée en fait à créer cette association en 2006 pour l'ouvrir en fait aux tout venants et avec une dimension beaucoup plus prophylactique.
Ça fait partie de votre parcours personnel, professionnel, avant de lancer votre projet à Chambly?
Oui, tout à fait. En fait, je n'ai cessé d'expérimenter aussi diverses thérapies sur moi pour mieux en fait les offrir avant tout aux patients. C'est grâce à cette expérience diverse et multiple que j'ai eu envie de créer ce lieu en lien aussi avec les structures médicales, mais en même temps un espace très privilégié, ouvert à tous, vraiment en ville.
Quel est l'objectif principal de l'association aujourd'hui ?
L'objectif est d'ouvrir des ateliers à médiation psychocorporelle. Donc j'ai commencé effectivement avec des groupes en fait, avec cette dimension collective et autour de la médiation de l'art-thérapie et notamment la danse-thérapie puisque moi je suis passionnée de danse depuis très longtemps. J'ai expérimenté sur moi, j'en connais les effets et j'ai vu les effets donc comme je disais sur les patients. Donc c'est comme ça que j'ai créé un premier atelier en expression corporelle, ouvert à tous. Et ensuite, j'ai créé aussi un atelier de méditation de pleine conscience qui existe toujours, où les personnes peuvent venir apprendre à se poser, respirer, avec des propositions de rentrer en contact avec leur corps, d'écouter leurs pensées. Voilà, donc le but, c'était vraiment de lier le corps et l'esprit à travers différentes médiations.
Ça se rapproche de la danse libre ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, tout le monde peut venir danser, il n'y a pas besoin d'avoir une technique particulière, ni un âge particulier, ni des conditions physiques particulières. C'est vraiment possible pour tout le monde de se connecter à la musique et à son corps et à se laisser librement se mouvoir. C'est tellement important dans cette société d'avoir des espaces comme ça de liberté, d'écoute, dans un cadre évidemment qui le permet, c'est-à-dire effectivement de bienveillance, de non-jugement, où chacun peut trouver sa place.
Ça s'adresse à tout public.
Oui.
Vous travaillez notamment sur les psychotraumatismes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça recouvre ?
Oui. Alors effectivement, au fur et à mesure de mes diverses formations et de part aussi mon expérience clinique où je me suis rendu compte que certains patients avaient des psychotraumatismes et que mes compétences étaient limitées si je ne leur offrais qu'une écoute et qu'une thérapie par la parole. Donc je me suis dirigée vers d'autres approches comme l'EMDR, qui est déjà assez connu par le grand public depuis les attentats, et qui est aussi donc très efficace pour tout ce qui est psychotrauma. Je me suis aussi dirigée vers l'intégration du cycle de la vie, que je pratique aussi beaucoup, qui est moins connu du public, mais avec cet outil aussi, j'ai beaucoup de bons résultats.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est une méthode qui a été introduite par Peggy Pace, donc une Américaine, dans les années 2000, et qui, en fait, elle s'est rendue compte qu'en introduisant des souvenirs assez récents auprès de patients qui avaient du mal à être stabilisés, ça permettait de les réancrer ici et maintenant dans le présent. Et ça permettait de les réguler au niveau émotionnel. Et donc, c'est grâce ensuite à cette ligne du temps qu'on explore l'histoire de la personne et on lui demande à peu près un souvenir par an que l'on va ensuite répéter en séance. Donc, le patient va pouvoir entendre tout ce qu'il a vécu. C'est comme s'il rassemblait différentes parties de lui-même jusqu'à revenir ici et aujourd'hui et entendre que tout ça fait partie de lui.
C'est de là d'où vient cette phrase « on revient dans le ici et maintenant ».
Oui.
C'est ça.
Oui, on peut effectivement. En tout cas, ça vient pas de là, mais en tout cas, on l'utilise et on le ressent surtout. C'est-à-dire que la personne le traverse dans son corps. Mmh. Elle sent que tout ça, c'est du passé et qu'elle est vraiment ici aujourd'hui, constituée de toutes ces différentes expériences, mais qu'aujourd'hui, elle a toutes ses ressources en elle. Elle a d'autres ressources en elle.
C'est ce que le patient comprend à la fin de la séance.
C'est ça, tout à fait. C'est là où il se dit, mais tout ça, c'est du passé.
Il faut plusieurs séances, j'imagine.
Oui, tout dépend après de la demande, bien sûr, de la personne. Tout dépend aussi de son histoire, de ses traumatismes. Mais en tout cas, on en voit des effets assez rapidement.
Quelles sont les problématiques les plus fréquentes que vous rencontrez chez les personnes qui viennent vous consulter ?
Alors, je dirais qu'elles sont quand même très diverses. Il y a quand même beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, d'anxiété qui peuvent se manifester autant sur le plan du travail que, bien sûr, des étudiants dans leur formation, mais aussi des difficultés relationnelles. Des périodes de vie difficiles, des séparations, des divorces, des deuils. Voilà.
Vous avez constaté qu'il y a de plus en plus de demandes ces dernières années ?
Oui, depuis le Covid, je dirais qu'il y a, il y a beaucoup plus de demandes, effectivement, des personnes, surtout des jeunes qui se sentent quand même assez isolés, qui se sentent un peu perdus, qui perdent un peu le sens de leur vie. Je dirais. Et puis, bien sûr, tout ce qui est un peu conduite addictive, derrière les écrans, le téléphone, Internet, etc.
Vous recevez beaucoup de petits patients, des enfants ?
Alors, des enfants, en fait, alors quand j'ai des demandes pour des enfants, je regarde surtout quelle est la capacité de régulation des parents et sur le plan émotionnel. Comment eux-mêmes sont impactés par rapport aux symptômes de l'enfant. Donc, c'est une approche un peu systémique. Je ne vais pas recevoir l'enfant en première intention. Je vais d'abord aider les parents à mieux comprendre leur enfant et à mieux aider leur enfant. Parce qu'en dehors du cabinet, c'est eux qui sont avec leurs enfants. Et les enfants sont complètement dépendants de leur environnement. C'est vraiment très important d'évaluer la capacité de régulation émotionnelle du parent par rapport à leur enfant.
Vous proposez plusieurs approches thérapeutiques, psychothérapie, art-thérapie, hypnose aussi, ou encore EMDR. Pourquoi cette diversité d'outils ?
Alors, je dirais que c'est aussi en lien avec toujours mon expérience de vie personnelle. Voilà, j'ai commencé avec la danse-thérapie, ça a vraiment été ça, qui a été moteur aussi pour tenir, on va dire, en psychiatrie pendant 14 années. Ça m'a aidé énormément justement à m'ancrer dans l'ici et le maintenant et à pouvoir m'adapter à entrer en relation avec différents types de patients qui avaient des difficultés à verbaliser, qui avaient des difficultés avec leurs émotions. Donc ça peut être très intéressant d'utiliser le dessin, d'utiliser le corps, l'expression corporelle, la musicothérapie pour exprimer des émotions qui sont ou refoulées dans la vie consciente d'aujourd'hui ou refoulées beaucoup plus loin dans le temps, dans leur passé.
Vous accompagnez aussi bien des adultes que des enfants, des adolescents ou des couples. L'approche est différente selon le public.
Oui. Tout à fait.
Et puis, comment ça marche l'hypnose ?
Ah, alors l'hypnose, c'est vrai qu'il y a beaucoup encore d'idées reçues par rapport à ça. On a beaucoup d'idées préconçues autour de la manipulation du patient. Moi, c'est pas du tout ça que j'utilise. C'est une hypnose ericksonienne. Et donc, l'hypnose ericksonienne, en fait, est beaucoup plus douce. Elle est dans une induction beaucoup plus douce. Ça ressemble en fait finalement un peu à la méditation. C'est-à-dire, ça amène la personne aussi dans un état de relaxation. Et où, à partir de là, l'imaginaire va être très présent. l'utilisation de métaphores, l'utilisation de contes, qui vont permettre à l'inconscient de pouvoir beaucoup plus s'ouvrir et dilater, on va dire, les résistances de la personne.
Comment elle l'approche selon le public ?
Ça va dépendre aussi de la demande de la personne. Certaines personnes veulent faire de l'EMDR, donc je vais répondre à la demande aussi de la personne, tout en sachant que j'ai aussi une écoute de ce qui pourrait aussi mieux fonctionner pour elles. Mais je réponds quand même à leurs demandes, et si ça marche, tant mieux. Et s'il y a des difficultés, à ce moment-là, je leur propose effectivement, j'écoute mon intuition clinique et je leur propose d'autres façons de travailler, donc en utilisant ou l'hypnose ou l'intégration du cycle de la vie.
Comment se déroule généralement une première séance de consultation, et quelle est la plus grande idée reçue que vous entendez encore sur la thérapie ou le soutien psychologique ?
La première fois que quand je reçois quelqu'un, je la laisse se présenter dans sa vie d'aujourd'hui, sa situation, son âge, sa situation professionnelle, familiale, etc. Et puis je vois aussi ce qui l'amène, qu'est-ce qui a été le déclencheur. Donc ça peut être une dispute avec son conjoint, ça peut être au niveau professionnel...
Un arrêt maladie,
exactement. Un accident de la route, enfin bref. Et à partir de là, j'évalue aussi avec la personne les différents symptômes qu'elle peut présenter sur le plan biologique, mais aussi, donc biologique, ça dépend aussi, donc on évalue son sommeil, on évalue son alimentation, si elle a des maladies, depuis quand, etc. Et puis... également sur le plan psychologique, donc les émotions qui sont là, les difficultés qu'elle a au niveau émotionnel, et puis aussi le lien social avec les autres, si elle est bien entourée, si elle est plutôt isolée, seule, si elle a des amis, etc., etc. À partir de là, ça permet d'évaluer un petit peu le type de trauma, en fait, qu'elle peut présenter. Ce sont des traumas plutôt simples, c'est-à-dire avec des événements qui sont ponctuels, où on connaît un début et on connaît une fin du trauma, ou des traumas plus complexes qui ont duré dans le temps, qui ont commencé dans une histoire de vie beaucoup plus précoce, donc rendant le sujet beaucoup plus vulnérable au stress.
Vous proposez également des consultations en ligne et à domicile dans le Val-d'Oise et l'Oise. Pourquoi ce choix à domicile ?
C'est en fait venu aussi après le Covid, enfin pendant le Covid même. Il n'y avait que cette possibilité-là en fait de rester en lien avec les personnes. C'était de leur proposer de la téléconsultation. Et heureusement qu'il y avait ça, parce qu'il y avait quand même beaucoup de difficultés émotionnelles dans ces moments-là. Et puis j'ai continué parce que ça peut dépendre aussi de plein de choses, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un déménagement, un patient qui a commencé une thérapie et qui a une bonne alliance thérapeutique, qui n'a pas envie de recommencer et qui du coup me demande de continuer en visio avec elle.
Et à domicile ?
Alors, à domicile, c'est beaucoup plus rare, on va dire, ça m'est arrivé quelques fois seulement. C'est surtout autour peut-être de la personne en fin de vie. Ça peut être aussi la personne d'un certain âge. Ça peut être, en tout cas, autour d'un patient, effectivement, qui a une maladie particulière et qui ne peut se déplacer.
Selon vous, est-il encore difficile aujourd'hui pour certaines personnes de demander de l'aide psychologique ?
Oui, parce que effectivement, il peut encore être véhiculé dans notre société de devoir être fort, que c'est peut-être un petit peu lâche d'aller demander de l'aide, qu'il faut se débrouiller seul, qu'il faut pas pleurer, qu'il faut pas montrer ses émotions. Enfin, ça dépend aussi de sa culture, aussi à la dimension aussi culturelle.
Qu'est-ce qui vous marque le plus dans les parcours des personnes que vous accompagnez ?
Ce qui me marque le plus, c'est assez rapidement de voir les effets. Les effets thérapeutiques sur la personne. Déjà, la personne peut se modifier, ne serait-ce que physiquement. Elle peut déjà prendre un peu plus soin d'elle. Si c'est une femme, elle peut venir de manière déjà être un peu plus féminine. Et puis, donc, c'est la façon dont elle se présente, la façon dont elle va parler. Peut-être que elle est déjà un tout petit peu plus régulée au niveau émotionnel. Son ton de voix sera plus doux, il sera plus lent. Elle sera moins activée, elle sera moins stressée.
C'est un gros travail.
Oui, c'est un grand travail. Ça demande beaucoup d'écoute, beaucoup de présence. Ça, c'est aussi un état particulier, comme de méditation, justement, dans lequel je rentre, qui est un petit peu, on met de côté un peu tous ses soucis aussi personnels et on se met vraiment à l'écoute de l'autre. Et il se crée quelque chose de très particulier, une ambiance très particulière.
Est-ce que vous avez un exemple de situation qui illustre bien l'importance de l'écoute dans un processus de reconstruction ?
Par exemple, une femme qui se sent effectivement assez isolée, qui a du mal à sortir, qui a du mal à venir même au rendez-vous parfois. Et lors d'une séance, on travaille sur cette possibilité de se sentir écoutée ici et maintenant par moi. Et du coup, spontanément, à partir de là, il y a d'autres expériences qui émergent, elle se dit en fait oui effectivement il y a cette situation aussi où j'ai eu un petit peu d'écoute, où il y a ma voisine qui m'a prêté un peu oreille. Enfin, ça permet d'autres réseaux positifs de mémoire du coup de s'exprimer.
Quels sont les projets ou les ambitions de l'association J'écoute pour les prochaines années?
Oui, alors là j'ai à cœur de créer un cercle de femmes spécifiquement pour les femmes, oui, qui s'appelle Éclore, autour de moments de danse et alternés avec de danse libre, alternés avec des temps de parole. Un cercle de femmes où il y aurait donc ce cadre, bien sûr, de sécurité, d'écoute bienveillante, de non-jugement, où les femmes pourraient s'exprimer librement, s'entraider entre elles, donc développer ce qu'on appelle la sororité, et également les aider à s'aider elles-mêmes, en fait. Tout simplement en étant axé à la fois sur le corps, parce que ça c'est très important de passer par le corps, de pouvoir se réhabiliter leur image d'elle-même, de travailler sur leur estime d'elle-même, sur la confiance, de pouvoir s'exprimer en groupe, leur permettre aussi de transférer ces situations à l'extérieur, dans leur vie, dans leur propre vie, et oui, de libérer la parole aussi en lien avec leurs ressentis, et donc de pouvoir en fait vraiment réancrer d'autres expériences corporelles que celles qu'elles ont pu vivre à travers de traumatismes, de travers de relations non constructives.
Ce serait un groupe de combien de femmes ?
Alors, en fait, j'ai en tête un minimum de 6 personnes, mais en fait, ça serait aussi en fait en fonction de la capacité de la salle que j'imagine avoir, ça, entre 6 et 20 personnes. Ça serait bien.
Dans le Val d'Oise et l'Oise ?
Alors, c'est à Chambly, oui, ça sera toujours sur Chambly. Voilà, tout à fait.
Et puis, pour terminer, si vous deviez adresser un message aux personnes qui hésitent encore à consulter ou à parler de leurs difficultés, quel serait-il ?
C'est d'oser pousser la porte du cabinet du psy, parce que, en fait, ça apporte tellement de bénéfices de pouvoir se voir autrement, entrer en relation autrement avec les autres, prendre de la distance avec les situations qui nous activent. On gagne tellement, il y a une telle différence de vie, de qualité de vie. On apprécie la vie tellement différemment. Donc oser.
Madame Prandi, merci d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous.
Bien entendu, ceci n'était qu'une expérience sonore. Les voix de l'égalité.